Bienvenue pour cette soirée qui constitue le début pour la Bibliothèque publique d'information et les auditeurs que vous êtes, l'engagement d'un nouveau cycle consacré à la littérature. Je remercie Yannick Hennel et Michel Crépu d'avoir accepté en quelque sorte d'ouvrir le feu pour le début de ce cycle consacré à un sujet que nous pourrions peut-être considérer comme rebattu, qui ne brille pas par son originalité. En fait, ce que nous attendons en invitant des créateurs d'aujourd'hui, aux talents connus, reconnus, confirmés, et même de jeunes auteurs, français ou étrangers, c'est qu'ils nous livrent les réflexions que leur inspire cette question « Écrire, écrire pourquoi ?». On sait que Samuel Beckett, lorsqu'on l'interrogeait à ce propos, avait rétorqué « Bon qu'à ça ». La formule est lapidaire, elle est sans doute vraie, en tout cas elle l'était pour lui. J'imagine que nos invités, au fur et à mesure des différentes rencontres que nous allons vous proposer, auront, quant à eux, davantage d'explications à donner sur cet acte finalement un peu mystérieux qui consiste à écrire pour un public. Merci.
Merci de votre accueil, merci de votre présence. Nous allons commencer nos travaux sans plus tarder. Alors, je suis content de me retrouver à cette table en compagnie de Yannick Hennel, qui a publié cet automne ce livre Cercle. Et je suis heureux de pouvoir... effectivement, comme vous l'avez dit, ouvrir le feu, que nous ouvrions le feu, c'est après tout une belle expression et qui peut être l'occasion en effet d'approcher, d'explorer cet acte qu'est l'acte d'écriture. Et je crois que la compagnie de la présence de Yannick de ce point de vue, est une magnifique ouverture de feu. Alors, je crois qu'on peut... on dit souvent qu'on écrit, on constitue son écriture contre. C'est certainement vrai. Et je pense qu'on peut tout aussi bien dire que l'écriture aussi est un mouvement qui est aspiré, on est tiré vers le haut par quelqu'un, par quelque chose, par un langage, par un événement de langage. Alors, en remontant un petit peu dans le temps, on peut peut-être essayer de dater un peu ce parcours. J'avais envie, Yannick, de te demander, au fond, quel avait été... si on peut le formuler comme ça, si on peut le définir comme ça, qu'est-ce que tu définirais comme premier ébranlement, comme premier commencement dans ta vie d'écrivain ?
Moi, sans hésitation, c'est Moby Dick. C'est la première lecture dont je peux dire qu'elle m'a fait entendre quelque chose comme la littérature, et qu'elle a non seulement suscité un désir rapidement déçu, parce que j'avais 13-14 ans, donc il était impossible de m'y mettre. Mais en tous les cas, c'est la première fois que quelque chose comme de la littérature m'est apparu. Moby Dick, c'est un livre que j'ai lu, c'est peut-être le livre que j'ai le plus lu. Bon, il y a Les Illuminations de Rimbaud, il y a Les Chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, mais Moby Dick, c'est un livre qui a eu de l'importance pour moi... je ne dis pas à chaque instant, mais à chaque période de ma vie. Donc c'est quelque chose qui a scandé à la fois mon entrée dans le langage. Et à chaque livre que j'ai écrit, je me suis aperçu récemment que j'avais relu Moby Dick, à tel point que dans Cercle, enfin dans le dernier livre que j'ai publié, Moby Dick fait partie presque des épreuves initiatiques que le narrateur affronte pour se mettre à être. Et moi, ce qui m'a intéressé tout au long de ces années dans Moby Dick, c'est évidemment pas le caractère de modèle, parce qu'il est impossible d'écrire aujourd'hui comme Moby Dick. Je ne pense pas que ce soit souhaitable, puisque du point de vue du point de vue métaphysique, du point de vue de ce qu'il en est du mal. Je pense qu'on n'en est plus là, enfin, on est à une autre époque. Mais en revanche, dans ce qu'il en est de la terreur, du ravage, de la dévastation, je pense que pour comprendre l'époque, pour comprendre le devenir nihiliste du XXIe siècle, quand on lit Moby Dick, on a l'approche de ce ravage, à la fois dans l'espèce de blancheur presque amoureuse, la blancheur mystique de la baleine, qui est très attirante, et évidemment son caractère de massacre. Moby Dick, c'est le massacre incarné. Moi, ce qui m'avait intéressé au tout début, de manière très naïve, et que finalement je revendique encore aujourd'hui, c'est moins le capitaine Ahab que Ismaël. Ismaël, comme vous savez, c'est le narrateur de Moby Dick. C'est un personnage dont j'ai lu il y a quelques années dans un livre sur Melville qu'il était soi-disant insignifiant, parce qu'il ne lui arrive pas grand-chose, enfin, du point de vue de l'action. Moi, je pense que c'est la présence d'Ismaël est fondamentale dans Moby Dick. Je pense même que peut-être que le véritable sujet est là. Un narrateur qui se baptise à la première ligne, ça dépend des traductions, je crois que c'est « appelez-moi Ismaël » ou « mettons que je m'appelle Ismaël ». Voilà. Donc il s'auto-baptise du nom du fils illégitime d'Abraham. Ismaël, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui est obligé de faire l'épreuve du désert, qui est rejeté, qui est chassé. Et à la fin du livre, cet Ismaël, qui est une espèce de jeune homme qui va faire son initiation, son épreuve du mal, à la fin, il y a un nouveau baptême, puisque, comme vous le savez, c'est le seul survivant. C'est celui qui, comme dit Job, est venu pour nous le dire. Tout le monde est mort, sauf Ismaël. C'est celui qui raconte. Dans ce livre, je me souviens que, dès la première lecture, ce qui m'avait frappé, et je pense que le choc initial de l'écriture, pour moi, est venu de là, c'est non pas la rencontre avec la baleine, mais c'est la rencontre entre Ismaël et cet étranger absolu, qui est un prince des îles du Sud, un cannibale, qui s'appelle Kwikeg, qui est quelqu'un qui est entièrement écriture, il est tatoué. Et Ismaël, qui n'a rien vu, au fond, au tout début du livre, lorsqu'il fait la rencontre de ce fils de roi, lui qui est l'illégitimité même, va devenir, en racontant Moby Dick, quelqu'un qui sera légitime. Pour moi, le témoin, et c'est ça qui me requiert dans l'écriture, le témoin, celui qui a en charge la narration, celui qui va se mettre à faire la littérature, c'est quelqu'un qui va, avec le récit, devenir légitime. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui entre dans un royaume. Pour moi, Moby Dick et tous les livres participent de cette espèce de royaume qui est un royaume sans domination, qui est un royaume qui serait le royaume du non-pouvoir, qui est le royaume à partir duquel, dans la parole, quelque chose peut avoir lieu, qui réplique, comme dans Moby Dick, au mal, ou qui invite à cette dimension mystique du langage. Donc ça a été, effectivement, depuis toujours, Moby Dick, pour moi, c'est le livre qui blasonne mon rapport à l'écriture. Et Ismaël, c'est quelqu'un qui, au même titre qu'Ulysse, au même titre peut-être que le narrateur, enfin le personnage de l'homme sans qualité, Ulrich, c'est celui qui, pour moi, est le porteur de phrases, enfin le porteur de la parole. Quelqu'un qui, en un sens, n'est rien, ou qui précisément fait de ce néant au départ son entrée même dans la littérature, et qui, par la littérature, devient un roi. Il y a également l'Odyssée, évidemment. Et j'en parle parce que vous savez qu'au début, dans l'Odyssée, à Ithaque, il y a un étrange protocole. Quand Ulysse réunit ses amis et les habitants de l'île, quand il réunit ce qu'on appellerait le gouvernement, disons, il y a un sceptre. Chaque personne qui parle durant l'assemblée prend le sceptre. Chaque personne qui parle dans l'assemblée d'Ithaque devient le roi d'Ithaque. Et pour moi, entrer dans le langage, se mettre à écrire, c'est devenir roi. Évidemment, c'est une royauté qui demande à être définie et que seule la littérature elle-même définit. Je pense que la prise de parole, telle qu'elle est mise en abîme dans Moby Dick, telle qu'elle est racontée dans l'Assemblée d'Ithaque, ça a à voir avec ce que j'appelle aujourd'hui la littérature. Voilà.
Alors, je suis frappé que tu places cette lecture de Moby Dick sous ce signe d'un avènement royal de la parole par l'intermédiaire de ce personnage d'Ismaël. Mais tu évoquais aussi en même temps, au début, cette question du massacre et ce caractère, au fond, peut-être un peu prémonitoire de ce livre au regard de l'histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui. Car en effet, comme tu l'as dit, l'écriture de Moby Dick, enfin l'événement littéraire, disons, que représente dans l'histoire de la littérature Moby Dick aujourd'hui, reste évidemment essentiel, mais nous ne sommes plus dans le même contexte historique. Et tu as prononcé cette expression de devenir nihiliste oui. du siècle. Alors, comment fais-tu le lien entre ce caractère de dimension royale que tu viens d'évoquer et cette dimension de massacre, de mal, de malédiction, qui en effet, dans lequel baigne le livre de Melville?
Je crois que c'est toute la question, en fait. Il y a une phrase de Rilke dans les élégies à Duino, je crois, qui dit « La beauté est le commencement de la terreur que nous sommes capables de supporter ». Et je pense que la littérature, c'est ce qui prend en charge à la fois cet irreprésentable qu'est à chaque époque le massacre, comme dit Melville, et toutes les données sans cesse métamorphosées du massacre, comment dire le massacre. Et en même temps, si la littérature ne propose pas une forme de liberté par rapport à cet emprisonnement, si la littérature ne propose pas, je dirais, une sortie hors de l'emprise du massacre, alors à mon sens, ça n'est pas de la littérature. Je pense que toute la difficulté réside là. Je pense que chaque personne qui se voue et se mêle d'écrire de la littérature est face à ce problème, à savoir que... Alors c'est un problème qu'on peut résoudre aussi par la vulgarité, ça. On peut se mettre à écrire n'importe quoi, mais on peut se mettre à ciseler de petites anecdotes et à faire comme on fait dans la Kaamelott névrotique, disons, ambiante. Mais si on essaye de se confronter à la dimension absolue de la littérature, alors il y a ces deux aspects. Il y a le fait que entrer dans le langage, c'est entrer dans une dimension où on est complètement exproprié. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des critères incontestables du nihilisme, c'est ça, c'est l'expropriation de chaque corps en dehors de la parole. Ça serait presque ridicule aujourd'hui d'écrire dans une belle langue. La belle langue, Jean Genet l'avait dit avant nous, la belle langue, c'est celle de l'ennemi. C'est celle de l'organisation du contrôle lui-même. Et cette belle langue est déchiquetée depuis belle lurette par les puissances de communication. Donc il y a ce premier problème, c'est se mettre à écrire, certes, mais le langage lui-même est le lieu du péril, de la dévastation. Se mettre à décrire simplement ce péril, c'est finalement s'exposer à une surenchère nihiliste. Je pense que l'un des phénomènes littéraires en France les plus marquants de ces 30 dernières années, c'est précisément le fait que ce qui se donne à entendre de la littérature, c'est cette surenchère-là. Dans la publicité culturelle en France depuis, oui, je dirais 30 ans, ce qui sature le champ, c'est la surenchère nihiliste, c'est-à-dire le surcroît de dévastation. Répondre à la dévastation part de la dévastation. Et
quand tu parles de dévastation, ouais. Est-ce qu'on peut considérer que le mot misère fonctionne oui, comme misère, un synonyme
oui, pour bien
que
sûr,
les choses soient bien claires?
Oui, misère. Donc au fond, je me dis que la littérature commence peut-être au moment où, à l'épreuve même de cette dévastation, de cette misère, à l'épreuve de ce que j'ai appelé avec Moby Dick le massacre, s'ouvre au cœur de cette exploration du langage quelque chose comme du, je n'ose pas employer le mot salut parce qu'il est très connoté, mais quelque chose comme de l'indemne ou du sauf, ou du moins un bond hors de l'emprise. Donc je pense qu'un récit, je pense même que tout récit véritable de littérature parle de ça,
de ces
deux polarités qui agissent l'une sur l'autre. La dévastation, la manière de fixer la dévastation, et le bon. Un bon qui, en tous les cas, chez moi, enfin, j'ai mis des années à mettre ça au point. Et encore, quand je dis au point, c'est au sens de la photographie, de la focale. C'est peut-être pas encore très net. Enfin, chez moi, ce bon passe par une érotisation du monde, par une érotisation du langage. Dans le dernier livre que j'ai fait paraître, qui s'appelle Cercle, chaque scène érotique est comme une possibilité d'extension, comme une possibilité d'agrandir au monde la zone érogène qui s'est allumée pendant une étreinte. Donc la manière dont les narrateurs des romans que j'ai essayé de faire, la manière dont ils se sauvent, entre guillemets, ou plutôt dont ils se délivrent de la dévastation qu'ils fixent, c'est par une extension, je dirais, une extension du domaine de l'érotisme. Alors, ce n'est pas un érotisme qui serait seulement lié à l'anatomie, mais un érotisme qui ouvrirait dans chaque phrase ce qu'il en est du corps à corps. Exactement.
Si on reprend un petit peu la chronologie de tout ça, sans en venir immédiatement à Cercle, il y a un premier livre, Les petits soldats, qui paraît en quoi, à la fin des années 80 ?
96, ouais. Mais que j'ai écrit bien avant, mais voilà, dans la difficulté.
Enfin, qui paraît, ouais. Qui est ton premier livre, que tu considères comme ton
premier
livre.
Bon, c'est un livre qui est très... Les petits soldats, c'est un petit roman d'apprentissage. C'est un livre qui est très codé, enfin qui est lié à une forme traditionnelle de la langue. Moi, ce qui m'était arrivé de manière singulière à 15 ans, c'est que j'ai été, disons, pris au piège. J'ai été pris dans une sorte de traquenard, puisque j'ai été envoyé dans un pensionnat militaire, tout jeune adolescent, disons, et j'ai vécu là la langue de manière très négative, la langue du commandement. Enfin, pendant plusieurs années, pendant 3 ans, j'ai vécu sous un régime de la langue qui était le régime de l'ordre, du commandement. Et tout de suite, au fond, m'est apparue la nécessité de répliquer à ce régime très spécial de la langue, qui était un régime écrasant, d'y répliquer par je ne savais quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai mis du temps à mettre au point ça. C'était là vers 15 ans, mais évidemment, c'était des balbutiements épiphaniques. Je sentais bien que, dès le début, que seule l'extase pouvait nous libérer de l'arraisonnement, là en l'occurrence de l'arraisonnement d'une langue violente au fond. Mais évidemment, ces extases, je n'en avais pas les moyens. Pour moi, c'est le problème qui se pose au fond face à la littérature, c'est avoir les moyens de sa propre langue. Ça passe par la pensée. Quand j'ai écrit ce premier livre, Les petits soldats, pour rendre compte de cette expérience comme ça, de combat avec une langue... avec la langue de la violence, j'avais en tête quelque chose qui était prodigieux et qu'il m'était absolument impossible de mettre en forme.
Moby Dick, c'était en même temps.
Moby Dick, c'était en même temps, oui. D'accord. Quand je suis entré au Prytanée, oui, j'ai lu Moby Dick et l'autre Hamon. Bon, ça, à la fois, ça a pulvérisé ma tête, ça m'a donné une grande force de solitude aussi, parce que... j'ai pu passer, disons, dans cet internat très bizarre dans les années 80, j'ai pu passer, disons, d'une solitude comme punition à une solitude comme couronne, je dirais.
Élection.
Comme élection. Il y a une petite phrase dans les carnets de Proust. Je ne sais pas si vous avez lu les carnets de Proust, c'est assez magnifique. C'est que des phrases elliptiques. Il y a une petite phrase dans laquelle il dit « Tiens ferme ta couronne ». Et c'était pour continuer sur la voie royale. Je pense que quand on écrit, quelque chose ou quand on tente d'écrire quelque chose, il faut absolument, Lacan disait, il ne faut pas céder sur son désir. Mm-hmm. Proust dit, voilà, il faut tenir ferme
c'est
sa couronne. Moi, je sais que c'est tenir ferme ma couronne, c'est-à-dire ne pas considérer la langue du commandement et la langue de l'ordre comme la véritable langue, c'est ce qui m'a permis de ne pas être broyé, enfin, d'échapper à cet arraisonnement. Donc quand j'ai voulu me mettre à publier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'écrire, je savais, il y a une quinzaine d'années, que je n'étais pas prêt. Mais il fallait, pour dans mon cheminement nerveux, disons, il fallait que je publie quelque chose, absolument. Donc j'ai choisi de décrire ce qui m'était arrivé au pensionnat de manière assez classique, en me masquant. Je m'avançais masqué, disons. Donc j'ai écrit un petit roman initiatique où je mettais en scène ce combat de langue. Mais pour moi, les choses sérieuses ont commencé bien après. Parce que j'ai vu tout de suite que pour être à la hauteur, je dirais, de ce que j'avais pu entreapercevoir dans Moby Dick, je ne dis pas pour être à la hauteur de ce livre, mais pour être à la hauteur de ce que ce livre ouvre, ben il me fallait beaucoup de temps, il me fallait beaucoup de stock d'études, comme dit Rimbaud, ou de provisions de relance, comme dit Ponge. Et donc, il fallait que je me mette à m'acheminer vers à la fois la parole et la pensée, à lire, et à lire de la philosophie. C'est venu comme ça, j'avais absolument pas étudié, disons, la philosophie, mais c'est venu comme une nécessité. Pour que la littérature soit autre chose que de l'innocuité en barre, il m'est apparu absolument nécessaire de...
Qu'il y ait un travail de la pensée.
Exactement.
Enfin, qu'il y ait une...
Oui. Voilà. Et ça s'est réalisé à travers une revue, quand j'ai rencontré François Méronis et Frédéric Badret, et que nous avons fondé à Troyes la revue Ligne de Risque. Donc cette revue Ligne de Risque...
Donc c'était en quelle année, ça?
Ça, c'était en 97, je crois.
Très peu de temps après.
Voilà, juste après la parution des Petits Soldats. Cette revue est devenue, au fil des ans, mais c'était son projet initial, est devenue la... Cet espace très étrange, parce qu'au fond, ça, c'est aussi le nom des conversations. Ligne de Risque, c'est aussi le nom des conversations que j'ai avec François Méronis. Ce n'est pas seulement une revue. C'est devenu le lieu où chacun d'entre nous a pu se mettre à naître, plutôt à se préparer à entrer dans ce que nous pensons être depuis très longtemps, la littérature. Tout en sachant que ça ne peut pas s'écrire de manière spontanée. Donc Ligne de Risque nous a permis, je dis nous parce que je pense que c'est le cas de François Méronis aussi, nous a permis d'avoir à la fois ce stock nécessaire pour pouvoir écrire des livres, cette espèce de fondation, disons, et en même temps un moyen de relance permanente.
L'outil revu, et s'avérant à ce moment-là l'outil approprié. Ça ne va pas forcément de soi.
Oh, ça ne va pas de soi, je pense que...
Mais il se trouve que c'est dans, cet outil-là qui tout à coup...
Dans mon cas, c'était nécessaire parce qu'il est possible qu'à ce moment-là, le fait de ne plus être seul, le fait de me mettre à dialoguer, apportait comme une espèce de surcroît d'énergie. Il est possible au fond que si j'avais continué ce parcours seul, je n'aurais pas trouvé aussi vite les moyens de... Je n'aurais pas trouvé aussi vite mon lieu et ma formule, disons, pour parler comme Rimbaud. Le fait d'être à plusieurs accélère d'une manière... Alors, ça dépend sur qui on tombe, évidemment, puis ça dépend qui on est, mais en l'occurrence, ça a accéléré pour nous deux la mise sur orbite de nos projets littéraires. Je ne pense pas que ça les ait transformés au sens où ces projets étaient là, mais ça les a fait naître, ce qui est vraiment différent. Je pense que la plupart des livres qui se publient ne sont pas nés. Vous voyez, il y a quelque chose dans la naissance qui peut arriver n'importe quand, comme on le sait tous. Il y a quelque chose dans la naissance qui a à voir avec cette royauté dont je parlais tout à l'heure, avec cette couronne. Donc voilà, écrire des livres, il m'est apparu que pour écrire des livres, voilà, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il fallait fonder une revue. Non pas pour publier comme ça des petites collections de textes, parce qu'il y a toute une tradition de la revue littéraire en France, mais moi, mon projet, c'était absolument le contraire de la NRF. Ce n'était pas une revue faite pour colliger de petits textes, comme ça, je dirais, de manière ornementale. Il s'agissait vraiment d'un coup de force, d'abord pour moi-même, puis d'un coup de force aussi dans le champ littéraire. Pour moi, l'idée d'écrire de la littérature va de pair avec une proposition de liberté. Je pense vraiment, et je dis ça avec modestie, je pense vraiment que si on ne se met pas à écrire avec l'idée qu'on va tout reprendre en littérature, alors c'est même pas la peine, au fond. Je pense que si on n'a aucune ambition artistique, ça n'est pas la peine de se lancer dans un quelconque art. Je pense que, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'en parlais tout à l'heure concernant Moby Dick, je pense que s'il y a bien un domaine où c'est tout ou rien, c'est bien celui-là. Donc, voilà, Ligne de risque a pu cristalliser mon désir d'absolu. Alors après, il y a trois livres qui sont nés de cette conjonction.
Juste un mot encore sur l'irruption de la philosophie tout à coup nécessaire dans ce travail. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu les choses là, qui est l'interlocuteur, où sont les textes, où le chemin se...
Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord ce cône d'ombre, comme dit, je crois, Rilke, ce cône d'ombre entre Nietzsche et Heidegger. Ce travail, qui est un travail évidemment sans fin, d'autant plus difficile pour moi que ce travail a lieu dans une dimension qui ne m'est pas propre, la dimension philosophique elle-même, et qui est la dimension dans laquelle je ne veux pas travailler, puisque c'est la littérature qui m'intéresse. Mais ce cône d'ombre m'est apparu comme nécessaire, puisqu'il éclaire ce qui a lieu au XXe siècle et ce qui continuera au XXIe, c'est-à-dire ce que Nietzsche puis Heidegger ont appelé par ce mot qu'on appelle aujourd'hui communément nihilisme. C'est un mot qui ne va pas de soi, ça demanderait... énormément de travail pour en parler, mais je pense que l'une des vocations de la revue Ligne de risque au départ, c'est pas la seule, c'était de travailler sur cette question-là. D'autre part, je pense que toute confrontation avec le langage, toute confrontation avec la parole, toute approche de la parole trouve nécessairement une sorte d'écho spirituel. Je suis pas loin de penser aujourd'hui que la parole et le sacré sont une même chose. Et donc le deuxième aspect des recherches, entre guillemets, qui ont lieu sous le nom de Ligne de risque, sont à trouver du côté d'un questionnement qu'on fait inlassablement, François Méronis et moi, de toutes les traditions. Donc on s'intéresse à Chuang Tzu, à Li Tzu, donc à Lao Tzu, donc au taoïsme. On peut s'intéresser aussi à l'orphisme avec Marcel Détienne. On peut s'intéresser avec Charles Malamud à la pensée védique, avec l'idée qu'au fond, précisément, là où nous en sommes du massacre, comme je le disais, de la baleine blanche, là où nous en sommes de ce qui a lieu sous le nom de massacre, là où nous en sommes d'une certaine barbarie, finalement, pour employer un mot plus simple, permet de trouver à penser le néant et toutes les formes de nihil dans différentes traditions, sans amalgame évidemment, mais je pense qu'un écrivain qui essaye aujourd'hui de dire ce qui se passe avec la langue et ce que la langue, ou le langage plutôt, de dire ce qui se passe avec le langage et ce que le langage peut répercuter de ce choc, peut et doit s'abreuver de tout le travail à la fois occidental et oriental qui s'est déployé et qu'on trouve aujourd'hui, qu'on exhume comme jamais. Il y a encore très peu de temps, on a découvert des écrits gnostiques, je dis très peu de temps par rapport à l'histoire du monde, enfin, il y a une cinquantaine d'années. Ce qu'il en est des écrits gnostiques qui surgissent aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons dans la ligne de risque, éclaire ce que je disais tout à l'heure de Melville, de Moby Dick, éclaire ce qu'il en est de l'histoire du nihilisme, éclaire ce qu'il en est du destin mondial, du charnier du XXe siècle, et éclaire dans la puissance de la parole elle-même ce qu'il en est de la possibilité d'illumination. Voyez. Donc, c'est vrai que la revue Linderis travaille sur quelque chose qui est un objet mouvant, presque mystique. Donc c'est très dangereux de travailler sur ces questions-là, parce qu'on peut déraper, au fond. Et ces choses-là sont explosives, au fond. Mais je pense que c'est précisément là que ça se joue.
Ce qui revient à introduire un troisième terme dans la conversation, littérature, philosophie, et un troisième pôle qui ne se confond pas avec la philosophie ni avec la littérature, que tu désignes sous le terme de sacré, et qui renvoie à une série de traditions spirituelles, aussi bien occidentales qu'orientales, et qui est partie prenante de ce travail.
Mais en fait, il ne s'agit évidemment pas de s'embarrasser d'un fatras référentiel, au fond. Il s'agit de tout étudier pour être de plus en plus libre. Moi, je sais que ce qui m'intéresse particulièrement et que j'essaye de mettre en scène dans chacune de mes fictions, c'est, je dirais, le saut dans le vide. Un saut dans le vide. Qu'est-ce que c'est qu'un saut ? Qu'est-ce que c'est que le vide ? À partir du moment où on se met à penser ça au-delà de la simple petite anecdote, au-delà du simple petit récit, effectivement, sous le nom de saut, et sous le nom de vide, il y a des traditions entières qui s'ouvrent. Ce qu'il en est du néant, ce qu'il en est du vide, ça peut se dire dans toutes les langues. L'idée, ce serait évidemment pour se sortir de l'angle mort qui menace la littérature à chaque instant, ce serait de pouvoir parler dans toutes les langues. Ce serait de réaliser ce qu'a fait Joyce, à mon avis c'est un cas unique, avec Finnegan's Wake, c'est-à-dire d'écrire une langue dans laquelle résonne, dans laquelle s'écoute, au pluriel, toutes les langues. Alors évidemment le risque, c'est une certaine soi-disant fermeture sur soi. Mais au-delà de cette espèce de pentecôte verbale, ou à côté de cette pentecôte verbale qui est quand même une sorte d'Himalaya, je pense qu'il est possible aujourd'hui d'écrire des fictions qui affrontent cette chose-là, qui affrontent le saut dans le vide nécessaire pour arracher au mal, disons, pour arracher au mal le néant qui délivre. Je sais que c'est peut-être un peu abstrait là,
mais ce qui nous amène tout naturellement justement aux trois livres qui ont suivi la publication des Petits Soldats et notamment à ce livre donc qui s'appelle Introduction à la mort française. Je crois que c'est important de l'évoquer parce qu'il fonctionne un peu comme une sorte de non pas de prélude, mais de moment négatif. On n'entend pas ? Ah, d'accord, pardon. Donc, l'introduction à la mort française comme venant ponctuer, enfin venant peut-être signifier ce que tu viens de dire quant à ce besoin de confrontation avec la part, non pas la part d'ombre, mais la part négative, enfin oui. La question nihiliste, de fait, oui. Effectivement. Blanchot est un interlocuteur là,
exactement,
ou un contre-interlocuteur.
Exactement. Bien sûr. À l'époque, moi, quand j'ai commencé à me mettre à écrire, j'étais requis par tout un territoire de la littérature française contemporaine, parce que j'ai toujours lu beaucoup de livres, beaucoup de romans contemporains. Et j'étais très requis par tout ce qui s'écrivait autour de Louis-René Desforest, oui. Tout ce qui s'écrivait après Georges Bataille et tout ce qui s'écrivait autour de Maurice Blanchot. Alors ça a été, mes toutes premières années, ça a été prodigieux d'être nourri par ça. J'avais la chance de connaître Louis-René Desforest, donc j'allais le voir. Bon, pour moi, c'était une espèce de chance de pouvoir entrer comme ça de plein pied dans le domaine de la littérature. Mais en même temps, il m'est apparu très vite que cette chance était piégée. À savoir que, bon, j'ai toujours eu un rapport très polémique à la littérature et aux choses, disons, mais il m'est apparu très vite que ce qui avait lieu sous le nom de Blanchot ne désignait peut-être plus tout à fait ce qui avait lieu dans le monde, planétairement, ou dans le rapport avec la langue elle-même, avec la parole. Les péripéties que j'avais eues avant, dans mon adolescence, avec la France, avec le national que j'avais en horreur, je les ai cristallisées sous la dénomination que j'ai inventée de mort française. Et dans ce combat, puisque le livre est une espèce de roman de chevalerie où je raconte un combat avec la mort française, et bien dans ce livre, j'ai fait de Maurice Blanchot, exprès, le représentant de ça, de la mort française. L'intuition que j'avais, qui me taraudait, l'intuition que j'avais, c'était que la République française était fondée sur le crime et qu'elle continue secrètement à être fondée sur du cadavre, sur du pourri. Et pour moi, depuis que j'avais été enfermé dans un pensionnat militaire où le nom de France était répété constamment comme une espèce de nom du père, enfin, mais du faux père, du père démoniaque, du père gnostique, il me semblait effectivement que le politique même, c'était le lieu de l'abjection. Donc j'ai écrit un roman que j'ai jamais relu, parce que je crois qu'il est d'une violence inouïe, où quelqu'un se promène à Paris et revit de manière hantée toute l'abjection nationale française du XXe siècle. Il revit des épisodes de la collaboration, des épisodes de la guerre d'Algérie, comme si du sang sortait de toutes les rues à Paris. Et ce personnage, qui va être le personnage qui s'est avéré finalement le personnage de tous mes romans, qui s'appelle Jean Daichel, ce personnage a ceci de particulier qu'il ne vit pas cette agression comme étant mortelle. Il y a quelque chose en lui, une espèce de plaie qui s'est retournée. Il a réussi à retourner l'opération dont il était l'objet. Donc c'est quelqu'un qui fait se révéler la négativité, comme tu disais, autour de lui. Donc c'est mon véritable premier roman, disons, après la tentative un peu traditionnelle.
Est-ce que tu ferais un lien, je voulais l'évoquer tout à l'heure, j'ai oublié, est-ce que tu ferais un lien avec, sensiblement à la même époque, en gros, le débat provoqué ou suscité par Houellebecq, et ce que représentait, ou ce que symbolisait Houellebecq, oui, justement, oui. D'apparition, tout à coup, de manifestation, d'une forme de nihilisme, enfin de
ah, bien sûr,
quelque chose qui se plaçait sous ce signe-là.
Exactement, mais j'en ai un petit peu.
Et je me souviens qu'un des premiers numéros, dans les premiers numéros de Ligne de risque, il y avait une confrontation avec Houellebecq sur ce
exactement,
terrain-là.
Ouais.
Donc je pense que c'est peut-être
un. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sans le nommer. Je pense que tout ça a lieu, enfin, le surgissement de quelqu'un comme Houellebecq, c'est autour de. 96, 97, enfin jusqu'aux fin des années 90. Et c'est vrai qu'Introduction à la mort française, c'est aussi une passe magnétique, non pas avec Houellebecq, dont je me fiche personnellement, mais avec ce qui peut avoir lieu sous ce nom-là et qui a lieu ailleurs qu'avec ce nom-là, c'est-à-dire avec ce que j'appelais tout à l'heure la surenchère nihiliste, avec le fait d'en remontrer sans cesse, enfin d'aggraver la plaie. Donc Introduction à la mort française, effectivement, c'est une première tentative d'exorcisme. Alors là, je prenais le cas de la France parce qu'il m'était viscéralement attaché, biographiquement, comme étant, là, pour moi, dans le langage, ce qui pouvait me nuire sans cesse. Je parle comme un paranoïaque. J'avais l'impression que ça s'adressait à moi. Et le roman met en scène quelqu'un qui essaye de sortir, qui va s'évader hors des coordonnées de la mort française.
Paris étant le lieu où se produit cet événement. C'est
oui.
important, je crois.
Oui, c'est très important parce que je mettais en scène à l'époque quelque chose comme le musée de la culpabilité. Il y avait déjà à cette époque-là un président de la République très spectaculaire et qui n'était déjà plus que son propre spectacle. Et je mettais en scène des présidents de la République interchangeables qui s'activaient dans une espèce d'asile psychiatrique qui était la France au fond. Et le président de la République en chef qui avait 10 000 masques, mais ouvrait un musée de la culpabilité dans lequel il conviait tous les Français. Et donc il disait très clairement, dans une espèce de discours que j'avais, qui m'avait été inspiré par le discours de Jacques Chirac pour l'arrivée des cendres d'André Malraux, je crois, au Panthéon. Donc le président de la République accueillait comme ça les Français dans ce tombeau. Enfin, ils étaient mis à mort par l'acceptation de leur propre culpabilité. Il fallait que tout le monde devienne coupable et le dise, se désinhibe vis-à-vis de cette question. Donc c'était à la fois une farce politique et en même temps, pour moi, un premier ajustement, à la fois pour me dégager de quelque chose de fondamentalement mortifère qui a lieu dans la littérature française, mais sans doute dans toutes les littératures, et pour fixer mon face-à-face, si je puis dire, avec le nihilisme.
Mais je reviens à mon thème de Paris, là. Parce que tu disais tout à l'heure, il y avait une sorte de retournement de la plaie, quelque chose qui faisait que le narrateur, le Nigel, était à la fois le témoin du carnage ou de la barbarie, et qu'en même temps, ce témoin était protégé, ou en tout cas n'était pas atteint mortellement. Et on est frappé de voir que dans les deux livres qui ont suivi, Évoluer parmi les avalanches et Cercle, ce retournement, Paris en est le théâtre, enfin Paris en est l'espace privilégié. C'est Paris qui permet ça.
Oui, c'est vrai. Ce qui...
J'imagine bien que ce n'est pas une affaire de sociologie urbaine.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui, à l'époque d'Introduction à la mort française, est relevé de l'immunité, il y avait Jean Daichel était étrangement immune. Ça va se transformer dans les livres d'après, Évoluer parmi les avalanches et surtout Cercle, en une expérience poétique. Et effectivement, la manière dont Jean Daichel s'en sort, c'est par c'est par cette espèce de coïncidence entre l'expérience poétique et la ville. Alors Paris est effectivement le lieu d'une dérive dans chacun de mes livres, parce que pour moi, il s'agit de mettre en de disposer, de déployer ce que Deleuze pourrait appeler un plan de consistance. Enfin, un personnage qui marche dans la ville, pour moi, c'est le début de l'aventure, c'est le début de la pensée, c'est le début de toute rencontre possible.
Là, on pense un peu à Joyce. Bonjour, oui, Joyce, au passage. Oui.
Et c'est aussi, comment dire, moi, je m'en fiche de Paris, au fond. C'est-à-dire que bon, Paris, c'est mais pas plus que Berlin, pas plus que New York. Je me fiche pas mal au fond de la culture dans sa respectabilité. Je dirais même que je m'en balance. Enfin, pour moi, Paris est un champ de force, et c'est tout simplement parce que je suis à Paris là chaque jour depuis plusieurs années. Donc ça a lieu là à chaque instant. Et si ça a lieu, alors ça réveille tout ce qui a pu se passer à Paris. Donc évidemment, Baudelaire, les situs, toutes les phrases viennent prendre en écharpe. Je pense qu'une phrase, si c'est une phrase, réveille la mémoire de toutes les phrases qui ont été écrites avant. Pour moi, écrire, c'est se fonder une mémoire en avant. Et donc voilà, Paris, parce que Paris, c'est un terrain de jeu amusant. Il y a Notre-Dame, il y a la Seine, il y a le Panthéon, on peut subvertir tout ça. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est avant tout faire s'ouvrir des phrases. Et donc lancer ces phrases dans une ville, où on a des rencontres amoureuse, disons. Je pense que c'est se donner les moyens d'un champ libre. Pour moi, c'est assez commode, au fond, Paris. Oui, c'est le champ libre. À partir de là, bon, il peut se passer je peux déployer mon jeu, disons.
Cela dit, Cercle est un livre qui n'a pas Paris comme seul lieu de d'errance. Enfin, il y a une confrontation aussi avec Berlin, hein, et puis, le voyage en Pologne, qui est au fond un peu un troisième, là aussi, une troisième dimension dans le livre. Est-ce que j'imagine que cette géographie propre à Cercle recoupe ces différentes choses que tu as évoquées en racontant la démarche de ligne de risque et la nécessité de travailler sur la question du nihilisme, d'une certaine façon, Cercle récapitule un peu tout ça, non ?
C'est vrai que c'est la première synthèse, disons, fictionnelle dont...
De constituer un monde à partir de ça. Ouais.
C'est vrai que c'est, d'une certaine manière, c'est la projection dans la fiction de tout ce qui m'est arrivé depuis ma lecture de Moby Dick tout jeune. Et c'est la première tentative, je dirais, aboutie, dont je sois à peu près satisfait, disons, depuis la création de Ligne de risque. Ce qui a lieu dans Cercle, c'est l'histoire en 2007 d'un chaman, sous couvert d'un jeune homme qui a des petites aventures érotiques à Paris, puis qui va découvrir quelque chose en allant de plus en plus vers l'Est. Il s'agit d'un itinéraire spirituel. Pour moi, 8h07, c'est-à-dire ce train de 8h07, c'est l'heure du conditionnement, 8h07, ce train que le narrateur ne prend pas, qui ne prendra plus jamais, 8h07, c'est un rendez-vous spirituel. Ce rendez-vous spirituel est vécu, et c'est comme ça que je vis très simplement ces choses-là, est vécu sur le mode de l'illumination, sur le mode de l'extase, c'est-à-dire de l'arrachement. Et à partir de là...
La sortie hors de soi.
Exactement. Et à partir de là, le narrateur vit sur un fil qui est très exactement entre vie et mort. Là, je me raconte pas d'histoire en disant ça, c'est vraiment ce qui a lieu. C'est-à-dire qu'un certain usage du langage vous ouvre à cette filière-là qui est très exactement entre vie et mort, où le langage ne cesse de se réveiller. Et donc, évidemment, ce narrateur qui est pris par cette délivrance permanente, voit la mort à l'œuvre autour de lui d'une manière neuve, puisque lui-même est rafraîchi. Dans Ézéchiel, la résurrection, c'est la fraîcheur. En fait. Il est en état de résurrection. La résurrection, c'est pas avoir un nouveau corps après la mort, c'est réveiller du langage. Et donc, comme c'est un itinéraire spirituel, il va être aux prises, sans le vouloir, puisqu'il ne désire rien, ce jeune homme, il veut jouir. Il va se rendre évidemment compte que la jouissance, c'est une question très complexe. Enfin, ça n'est pas seulement ce qui a lieu dans les épidermes, mais c'est la question même qui est en jeu dès lors que quelque chose dans notre corps s'ouvre à la parole. Alors ça va le mener assez loin, ça va le mener vers l'Est, ça va le mener à Berlin, parce que Berlin pour moi est, la capitale du nihilisme au XXe siècle. Aujourd'hui le nihilisme est planétaire, donc il n'y a pas besoin comme ça de dire « ah, il n'y a que du nihilisme ici ou pas là ». Non, il est. Mais on peut dire que Berlin a été l'un des centres de décision du pire à une époque. Donc ça m'intéressait que ce narrateur soit propulsé dans une ville qui évidemment n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était en 1933, mais où il est à l'épreuve du cauchemar. Parce que c'est bien ça dont il s'agit dans les phrases. C'est à la fois l'enchantement, l'ouverture vers une extase qu'on relance sans cesse par d'autres phrases, et en même temps le fait que la mémoire, ce que j'ai appelé la mémoire morte dans Serre, que la mémoire de tout ce qui a lieu, de tout ce qui a eu lieu de pire dans l'humanité, entre guillemets, est là à chaque instant. Quand on fait une expérience, quand on a une expérience poétique, on vit ces deux choses-là, je dirais presque en même temps, dans l'entrelacement. Ça rejoint ce qu'on disait au début de la dévastation et de la jouissance. Et le narrateur a identifié, disons, cette présence du mal. Tu parlais de géographie comme quelque chose dont il va pouvoir plus commodément faire l'expérience en allant vers l'Est. Parce que vers là-bas crépite quelque chose qui n'a rien à voir avec sa vie. D'ailleurs, on ne sait rien de sa vie. Mais dont il semble que magnétiquement, il va pouvoir l'entendre là-bas. Et donc, ça va être Varsovie, puis la Pologne orientale, et quelque chose qui a à voir avec les camps d'extermination et la renaissance de la grande mémoire juive par la mystique qu'il découvre en chemin à Lublin, la ville des Hassidim. Donc voilà, effectivement, ce que j'ai essayé de former sous le nom de cercle, c'est vraiment une synthèse spirituelle. Enfin, parce que pour moi, la littérature, c'est presque un mot, il n'y en a pas d'autre, il est très beau comme mot, mais ça doit se baptiser autrement sans cesse, à chaque phrase. Enfin, donc effectivement, cercle, c'est un itinéraire spirituel où quelque chose de l'ordre de l'empêchement du monde, quelque chose de l'ordre du barrage, dont Moby Dick, il s'agit d'un mur. Quelque chose de l'ordre du barrage et quelque chose, de l'ordre de l'amour ont lieu comme deux expériences antagonistes, qui sont pour moi les deux expériences fondamentales, et qui se travaillent l'une l'autre. Voilà pour moi, pour répondre à la question qui a l'air de hanter ce cycle de conférences, écrire pourquoi, c'est pour débrouiller cet écheveau entre les deux polarités, je dirais, immémoriales, hein, qui sont dans la parole elle-même, dans le langage, qui sont l'écoute du pire, de l'invivable, disons, et la possibilité à chaque instant du réveil amoureux des phrases.
Ce qui est une façon effectivement de revenir sur Moby Dick comme le mouvement de la mer. Qui... Notre timing est absolument parfait, oui. car nous allons pouvoir passer en quelque sorte à la deuxième
partie de cette soirée. Et donc, mais peut-être tu peux le présenter toi-même. Donc, oui. Regardez un film qui a été réalisé à partir de cercles, n'est-ce pas ?
Voilà, un jeune vidéaste très talentueux qui s'appelle Guillaume Emmenier a réalisé l'été dernier un film à partir de la première partie de Cercle, qui a donc lieu à Paris. Et Guillaume Emmenier a essayé de transposer poétiquement ce qui a lieu dans cette première partie et de trouver une alchimie avec des images. Voilà. Je vous proposais une lecture de certains passages de Cercle que je lirai en même temps que vous pourrez voir les images.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Est-il possible d'affirmer un jour « je suis prêt » ? Ce matin-là, j'ai pensé « c'est possible ». Je n'avais aucune idée de la manière dont ces choses deviennent possibles. Et pourtant, en quelques secondes, je l'ai su. Il existe un courage bizarre qui vous pousse à détruire vos habituelles raisons de vivre. C'est un courage d'abîme et de lueur, le courage des solitudes brusques, celui qui accompagne les nouveaux départs. J'écoutais mon corps se charger de joie et avec lui des lignes de pensées nouvelles, 1000 pensées reliées l'une à l'autre par l'instant libre qui les suscite. Je me suis allongé sur le banc, la tête appuyée contre ma sacoche. Une simple nuance et les corps s'envolent. À partir des afflux de clarté longtemps retenus, de ces mouvements de couleurs qui viennent de nuits lointaines, le corps s'illumine d'une joie claire qui vous réveille. Un point s'allume quelque part. Puis un autre. C'est un rond, une ligne, et ça devient des phrases qui viennent éclore sur votre banc. Une nouvelle phrase a éclaté dans ma tête. et je me suis levé. J'ai bondi. La phrase, en bondissant, à haute voix je l'ai dite. Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. J'ai sorti un morceau de papier de ma poche sur lequel j'ai écrit trois mots. Phrase, oiseau, feuillage. Un frisson est passé entre les trois mots. La lumière agrandissait les feuillages et je me sentais vivre ainsi, un pas devant l'autre, gorge ouverte et le cœur en joie. Où va-t-on quand on ne va nulle part ? En marchant vers le pont du carrousel, je disais « phrase », puis je disais « feuillage », puis « oiseau ». De la combinaison de ces trois mots s'allumait pour quelques minutes un feu dans ma tête qui se propageait à mes gestes. Dans un souffle, il ouvrait au cœur de cette matinée une étrange éclaircie. De la combinaison de ces trois mots, « phrase », « feuillage », oiseaux jailliront des éclaircies, me disais-je. C'est à coups d'éclaircies que bientôt je verrai. Les éclaircies, ajoutées l'une à l'autre, formeront la trame de cette vision que j'appelle cercle. J'étais donc là. Un cerisier constellait ma tête, avec ses fleurs roses et blanches. Il faisait très beau. Je n'étais plus dans l'existence. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu la sensation de l'existence absolue. Impossible de formuler ça autrement. Impossible de ne pas le formuler. Ce qui est venu avec ces mots, existence absolue. Et précisément, lorsque j'ai vécu cet instant, ça avait l'air de tout, sauf de l'existence. J'ai souffert, mais d'une souffrance que je ne connaissais pas. Une souffrance blanche, échouée dans sa propre pénurie. À l'intérieur de ce désert, tout de suite, j'ai vu l'envers du combien. Ces mots sont étranges. Je les emploie parce que c'est eux qui sont apparus sous le cerisier. L'expérience, c'est eux. J'ai commencé à percevoir les choses sans l'idée du chiffre, sans le 1, le 2, le 3, le 1000. Le nombre s'est mis à ne plus exister, et avec lui a disparu l'idée de valeur. Combien, combien, combien disent les hommes, combien tu vaux, combien je vaux, combien ça vaut. Un cerisier ne vaut rien, il ne fait pas nombre. Il n'est pas pris dans le chiffre. S'il passe, ce n'est pas pour valoir. Si jamais le corps se libère de l'idée poisseuse de valoir, il augmentera sa distance avec les autres corps. Mais alors une éclaircie s'allume, et ce corps peut vivre enfin, avec dans ses veines une arrivée d'existence absolue. Vous ne savez pas ce qu'est cette existence. Elle semble aussi terrible que merveilleuse. Elle risque de vous détruire, mais ce risque fait signe vers une aventure qui vous semblait impensable. Une aventure où ne se contente pas d'être brassé le lot habituel des passions, où s'élabore une solitude aussi puissante qu'un raisonnement, où s'annonce, en même temps que de nouvelles raisons de vivre, l'arrivée d'une vie sans raison. Il y a eu des journées parfaites. De ces journées où les choses sont rondes et s'ajustent comme des chapitres. Des journées où la lumière est le seul sujet. où le passage des couleurs dans les arbres assouplit le silence. Entre le jour et la nuit, il n'y a plus de différence. Lorsqu'on coupe les ponts, le temps s'enroule sur lui-même. Le vent souffle à travers la chambre. Les angles n'existent plus. On ne voit que le vide. Lorsqu'Anna Livia danse, ses doigts se détachent de la main. La transe débute par la nuque. Les os jouent en vrille. La tête roule d'une épaule à l'autre. Son corps tout entier se déploie en glissière. Je repensais à la phrase de Pina Bausch : je voudrais que les filles volent. Elle était exacte. Je me disais : dans la rue, les corps sont privés de gestes. Et là, sous les yeux de Pina Bausch, des gestes, il en arrive de partout. Il y en a tellement, c'est un tel luxe de gestes, que les corps, eux aussi, se mettent à exister de partout. Je me disais, ce sont les gestes qui mettent en vie un corps. Je n'avais jamais vu autant de gestes. Jamais vu d'aussi beaux gestes, peut-être même jamais vu de gestes du tout. Si les mouvements des danseuses de Pina Bausch sont ce qu'on appelle des gestes, alors à côté de ces gestes, aucun geste n'existe. Et puis en suivant des yeux Anna Livia, je me disais, une femme est en train d'apparaître. Les femmes sont comme les hommes, en général elles existent à peine. Et les hommes, il n'y en a presque pas. Presque aucun homme n'est vivant, car presque aucun homme n'est capable d'apparaître. Mais les femmes, me disais-je, il en existe encore qui sont portées par leur propre apparition. Il y en a qui toujours ont l'air de surgir. Leur corps semble naître sous vos yeux. Anna Livia ne faisait que ça, apparaître. Il faut qu'un corps apparaisse pour qu'enfin il existe. Apparaître n'a rien à voir avec le fait de s'exhiber, rien à voir avec le fait de se montrer. Partout, tout le monde se montre, tout le monde ne fait que s'exhiber, c'est pourquoi personne jamais n'apparaît. Lorsqu'un corps apparaît, il se passe enfin quelque chose dans les corps. Lorsqu'un corps apparaît, le monde des corps se retourne. Un corps qui s'ouvre au vide doit en même temps ouvrir un chemin dans le vide pour son corps. Car il n'y a pas de geste ancien. Un geste ancien est un geste mort. C'est un geste qui n'existe pas. Une simple habitude. Il n'y a que des gestes nouveaux. De la nouveauté seule d'un geste s'invente ce qu'on nomme un geste. Un corps qui danse ouvre avec ses gestes des espaces où aucun geste encore n'est allé. La danseuse envoie son geste dans l'air afin de trouver des espaces qui, avant ce geste, n'existaient pas. Avec ses gestes, elle invente des espaces. Et avec ses espaces, elle invente le corps qui les découvre. Le premier matin, en revenant de chez Anna Livia, après une semaine passée avec elle, j'avançais dans les rues léger et tout riait en moi. Mes bras riaient, mes mains riaient, mes yeux, mes jambes riaient. chaque amour vous ouvre au temps où repose la jouissance. Les pensées qui vont et viennent à la lumière de cet amour ne sont rien d'autre que les instants d'extase qui les rendent possibles. À chaque instant, cet amour se confond avec les signes que le désir trace sur le papier. On ne pense ni à l'avenir, ni au passé. On est tout entier dans chaque seconde. Et des phrases se forment qui vivent avec cette vie. Dans la jouissance, reçue en même temps que donnée, le corps se déplie. Ainsi est-il traversé par la parole, qui remplit et vide à la fois. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est la clarté? C'est plus difficile à connaître que les ténèbres. La volupté vous entraîne dans un jeu de nuances toujours plus fines, au point que seul le vide les détache. Vous avez la jouissance du temps lorsque votre corps est devenu mémoire. Alors vous évoluez dans le stock du temps. Vous en dispersez les instants en même temps qu'ils reviennent. Ainsi commençais-je de percevoir, à travers nos étreintes, quelque chose de nouveau, comme si chaque étreinte ouvrait sur une écoute, comme si à travers une étreinte, on entendait mieux le monde. La jouissance d'une étreinte n'est pas un instant perdu dans le flot des instants qui passent. La jouissance qui est à l'intérieur d'une étreinte est ce qui rend possible l'existence des instants. Elle est le seul instant. Celui qui ouvre au temps, celui qui vous fait entendre ce qu'il y a dans le temps. Les illuminations appellent la jouissance. La jouissance appelle les illuminations. Ce n'est pas contradictoire. Une boucle se forme. Chaque brin d'herbe est nappé de salive. Car l'amour ne se réduit pas à la petite affaire humaine et chaude, hérissée de sentiments, qui lance un corps vers un autre. Il ne se réduit pas à la guerre joyeuse et sombre où les deux corps s'affrontent et tirent de cet affrontement une joie qui calme leur solitude et qui l'approfondit. Autre chose a lieu sous ce nom. Une chose qui est le vrai cœur de la rencontre. Et ressemble au chant qui s'allume à l'intérieur du langage lorsque les phrases réussissent. Les cahiers, les notes, les ajouts, les ratures, les papiers collés, les dos d'enveloppe, les versos d'ordonnance, les bandes de journaux, tout débordait dans ce manuscrit qu'il était impossible de mettre au propre. Ça n'arrêtait pas de bouger. Le moindre mouvement dans une région du manuscrit impliquait aussitôt 10 pages plus loin de lentes glissades de paragraphes. Il m'arrivait la nuit d'entendre ce bruit d'iceberg des pages qui s'ajustent comme des plaques tectoniques. Le livre ainsi n'arrêtait pas de se réécrire entièrement à chaque instant. Et puis il y avait des morceaux éparpillés dans les cahiers, Une exploration de plusieurs heures était nécessaire pour débusquer ces fragments microscopiques et les injecter au bon endroit. J'ai passé 2 mois et demi dans le manuscrit, à remonter chaque page. J'étais debout, couché, triste, joyeux. Le ciel était rouge, il était gris, lilas, amande et noir. Les phrases passaient l'une après l'autre sur mes genoux, appuyées contre un atlas ou pour me détendre, entre 2 pages à réécrire, je regardais le nom des villes d'Allemagne et suivais le cours des fleuves. Dans la nuit, lorsqu'on se parle, Anna Livia et moi, la distance s'illumine. À la manière dont les paroles d'Anna Livia m'entrent la nuit dans l'oreille, je reconnais le chemin qu'elle parcourt. L'aisance, le calme, ou bien le souci qui les embarrasse. Mais la plupart du temps, la voix d'Anna Livia circule dans la nuit comme un vol de papillon. Elle chuchote dans les fleurs avec des spasmes. Elle me donne les phrases. Le sommeil prolonge les voix. Il les destine à la prochaine nuit. Le temps se poursuit seul à travers ma main. Et puis lorsqu'elle raconte ses courses matinales en forêt, la voix d'Anna Livia semble humide de rosée. Chaque nuit, habituée à l'entendre, mon oreille capte dans la voix d'Anna Livia ces détails de salive qui travaillent avec la langue. Ils sont plus calmes qu'au moment du baiser, mais ce sont les mêmes. La prononciation de chaque syllabe sculpte dans la bouche d'Anna Livia un remuement humide. J'ai enjambé la grille du square Barry, puis j'ai descendu le petit escalier au fond du jardin. Sur les quais, la neige avait recouvert les branches des peupliers. Je me suis dirigé vers le saule pleureur, celui qui se penche vers le fleuve. J'ai regardé les flocons tomber dans l'eau. Il y avait tout un vitrail qui scintillait dans mes yeux, comme si mes aventures s'allumaient en rouge, en vert, en bleu, avec les silhouettes d'Anna Livia, de Clarine, de Clémentie, de Lestrange, et aussi celles de Joséphine, de Pina Bausch, de Jeanne et de Colombe, celles du sanglier, et puis tous les visages, tous les corps qui, depuis le 17 avril, étaient passés dans mes phrases. Le vitrail s'est mis à scintiller dans le fleuve. On pouvait lire les phrases avec l'eau, elles s'ouvraient comme des nymphéas. Je me disais, je marcherai bientôt dans les rues de Berlin. Je roulerai dans un chemin de campagne, en Pologne ou en Tchéquie. Mais au même instant, je serai secrètement penché sur l'eau d'un fleuve à écouter la venue des phrases. Peut-être serai-je éternellement penché vers ce fleuve. Peut-être suis-je là depuis toujours. Car cette voie est à la source. On y arrive, on s'en éloigne, peu importe. L'essentiel est de passer à travers son buisson. Écoutez le murmure humide des nymphéas. Écoutez la sève qui s'impatiente. Elle montera dans quelques mois vers mes branches. Et entre mes feuilles qui balayent le fil de l'eau comme des palmes et ce nymphéa là-bas, dont je connais bien la couleur mauve, la rencontre, comme chaque printemps, se corolle en 1000 phrases qui chatoient parmi les étreintes. Les métamorphoses veillent sur les phrases, ou peut-être les phrases sur les métamorphoses. Le passage de la déesse suscite un dieu dans ce qui s'écrit. elle s'amuse à être le fleuve et lui un feuillage. Le temps féconde leurs caresses. Regardez les nymphéas, ils sont blancs cette nuit. On dirait qu'avec la neige, ils fleurissent. L'eau glisse jusqu'à moi, ses boucles me lèchent doucement.
Bonjour, merci.
Bonsoir.
Je voulais savoir, est-ce que vous sentez proche ou éloigné du narrateur de Cercle aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, je veux dire,
ce soir,
6 mois après la rédaction, enfin, de la publication.
Ah oui, d'accord. Oui. Disons que je pense avoir manifesté ce soir que j'étais très très proche. Enfin, disons que c'était que je coïncidais avec lui. Maintenant, c'est vrai que comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, un livre comme Cercle et la synthèse et l'approximation aussi de multiples expériences qui se sont tramées en amont toutes ces dernières années pour moi, et aussi le fruit d'une réflexion sur la littérature. Alors en effet, c'est vrai que le fait de faire paraître un livre comme ça, je m'étais habitué à l'écrire, disons, parce que j'ai mis 5 ans pour l'écrire, et c'est vrai que faire paraître un livre, c'est aussi s'en délivrer. Comme c'est un livre sur la délivrance, c'est un peu étrange de se délivrer de la délivrance. Mais du coup, pendant les mois où je me suis retrouvé à en parler, finalement, puisque j'en étais dessaisi, comme ce soir, j'ai pu voir que j'étais peut-être plus tout à fait là. En même temps, tout ça n'a pas grande importance. Au fond, ce qui a lieu dans Cercle me procure une sorte d'avenir, je dirais presque existentiel. Ça m'a ouvert une existence et des phrases qui sont la continuité de Cercle, au fond. Mais ce que j'écris aujourd'hui est depuis quelques jours finalement, est une extension paradoxale de Cercle. Donc je ne sais plus très bien. Enfin, je pense que ça se déplace au fond sans cesse. Mais ce qui a lieu dans chaque phrase de Cercle, c'est moi. Mais moi délivré de mon nombril. Voilà. Donc si c'est possible.
Bonjour, j'aimerais vous savoir si, comme le titre de votre petit film Désertion peut créer une liberté spirituelle. Enfin, est-ce qu'on peut s'éloigner du contexte de soi pour se libérer
Du contexte,
manière,
pardon
d'une manière assez libre et assez libre de tout, quoi.
J'ai pas bien entendu tous les mots. Si on peut se libérer du contexte.
Si le terme de désertion. Oui. Peut impliquer une liberté spirituelle. Oui.
C'est vrai que le titre qu'a choisi Guillaume Meunier, qui vient du livre La désertion parfaite, c'est d'ailleurs un livre que j'ai inventé, qui est à l'intérieur de Cercle, puisque c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de livres, et j'ai inventé un écrit taoïste qui n'existe pas, un écrit taoïste du XVIIe. Très inspiré par un croisement, je dirais improbable, entre Chuang Tzu et les pensées de Pascal. Alors j'ai appelé ça la désertion parfaite. C'est, pour moi, la désertion n'est pas à entendre comme le contrôle peut l'entendre. C'est pas affecté d'un sens négatif. La désertion, c'est précisément la position la plus imperceptible. Je pense que le déserteur ne se signale jamais. Il n'y a pas de déserteur qui va dire « je suis en train de déserter », puisque précisément, c'est pour échapper aux signes qu'il existe comme déserteur. Pour moi, le déserteur, c'est l'autre nom du témoin. On en parlait tout à l'heure avec Michel Crépu, ce témoin que j'ai vu sous les traits d'Ismaël, puis de tous les narrateurs de la littérature, un point que j'essaye d'habiter à ma manière. Enfin. Et pour moi, ça a à voir aussi avec une certaine désertion. C'est-à-dire que il s'agirait de répliquer au désert qui croit, comme dit Nietzsche. Et répliquer à ce désert ne peut peut-être, c'est une solution parmi d'autres, enfin, ne peut peut-être avoir lieu que par une certaine désertion, justement, désertion qui désignerait diverses tentatives pour sortir, si c'est possible, des conditionnements. Ce qui se propose sous le nom de Cercle, c'est un cheminement de désertion heureuse qui a ceci de particulier qu'il n'est pas rattrapé, ce cheminement, peut-être pas rattrapable. À un moment, il est rattrapé par des hantises dans sa partie centrale, mais au fond, ça se passe bien. Il me semble que toutes les tentatives de désertion qui sont précisément non pas des manières de s'éloigner de l'essentiel, mais de s'en rapprocher en fuyant l'inessentiel. Il me semble que c'est très difficile d'habiter la désertion parce qu'on est... c'est ça, le problème de la désertion, c'est qu'on fait l'expérience même du rien, du vide. Alors, le vide, c'est pour moi ce qu'il y a de plus parfait. Je crois que c'est une phrase de Novarina qui dit « le vide est la figure parfaite enfin, ». Où il n'y a dans le vide que du parfait. Mais en même temps, le vide, c'est évidemment ce qui a priori, peut vous détruire à chaque instant. Voilà, donc ce n'est pas une désertion au sens... Mais je pense que là, tout à l'heure, on évoquait effectivement les expériences spirituelles de différentes traditions. Elles sont presque toutes fondées sur une pensée du vide, et évidemment d'un vide qui s'arracherait à la négation qu'on y met. C'est-à-dire qu'il s'agit dans ces expériences où finalement on sort des conceptions métaphysiques traditionnelles, il s'agit de voir le néant ou le vide, disons, enfin c'est pas la même chose évidemment, mais de pas le voir depuis la négation, mais de retourner, disons, ce couple de la négation et du néant. Vous voyez, alors ce sont des choses qu'on peut qui sont de l'ordre de la pensée, mais qui sont également pour moi, à partir du moment où s'enclenche quelque chose comme des phrases ou du langage, c'est quelque chose qui a lieu. Pour parler comme Lacan, le réel. Et là, la réalité, c'est une autre affaire, en fait. Mais le réel est lié à ce questionnement permanent sur, disons, le vide. Voilà. Merci. Ah, très. Oui.
J'arrive à situer la personne que j'ai suivie pendant pas mal de temps, finalement, un peu moins que vous, bien sûr. Mais là, c'est presque gênant. Je déteste les vernis du Japon de la dernière image. Non. Cette obligation des images aujourd'hui est insupportable.
Ouais, ouais, ouais. Mais
le
c'est
bonheur
pas
de votre
s'agit.
Roman, c'est ouais. qu'on se fait ces images.
Ouais.
Et en plus, de l'entendre lire, ça n'est pas agréable du tout, puisque je le lis avec les yeux, moi.
Pourquoi êtes-vous venu, je me demande alors. Mais,
j'ai pas besoin de non. votre voix.
Mais la question est très sérieuse. Merci de ne pas avoir besoin de moi. D'ailleurs, c'est pas la question. D'une part, j'ai effectivement mis déjà des images dans le livre. Parce que pour moi, le vouloir faire comme si les images n'existaient pas, c'est une manière de se voiler la face. Il n'y a presque plus que ça, des images. Il y a de moins en moins de phrases, il n'y a plus que des images. Donc, intervenir avec des phrases dans une réalité qui ne jure que par des images, je pense qu'il faut être un peu rusé. Et c'est pourquoi j'ai mis des images dans le livre. Et le narrateur de ce livre, si vous l'avez lu, il me semble, s'oriente dans l'existence à coup d'exorcisme. Et dans son itinéraire, je disais tout à l'heure, je hasardais le mot de chaman, dans son itinéraire chamanique, il se raccroche sans cesse à, comme dans un terrain de jeu, à des signes. Donc il griffonne à un moment, quand il est dépossédé du langage, il griffonne. Les images, faute de mieux. Mais les images, pour moi, c'est quand même aussi la peinture. Donc cette espèce de fatwa que vous, que vous faites contre l'image n'est pas très... mais, merci. L'idée de projeter un film ce soir de Guillaume Meunier ne vient pas comme, à mon sens, hein, comme une illustration du livre. Pour moi, c'est une tentative, d'incarner par un autre biais ce qui peut se passer dans des phrases. Alors je sais que ça, Jean-Luc Godard ne fait que parler de ça depuis 30 ans et c'est un problème passionnant. Je sais que entre l'image et les mots, il se passe quelque chose comme une ligne de faille. C'est presque impossible de faire parler ce qui se passe entre les deux. Et c'est pourquoi ce que nous avons tenté de faire ce soir est impossible. Mais c'est pourquoi je l'ai tenté. Ouais. Donc, moi, j'aime bien ces images, je les trouve très belles. Moi, je n'aime pas, au contraire, les moments où je me vois. Et j'aurais bien aimé qu'on coupe mon corps sans cesse. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai fait le film. Je trouve que la littérature, la manière dont le littéraire aujourd'hui est finalement complètement rabougri, ça me fait penser qu'on ne doit pas rester dans son coin sur des positions crispées liées à la sacro-sainte littérature qui ne serait que du langage littéraire. Moi, je sais que, et là, je le fais exprès aussi, j'essaye de m'ouvrir le plus possible à ce que vous appelez les images, peut-être, à la danse aussi, à la peinture, parce qu'au fond, je pense que la littérature contemporaine meurt aussi de se maintenir dans un coin culturel où il ne se passe absolument plus rien. Je veux dire par là que, pour moi, comme pour, je crois que c'est Barthes qui disait ça à propos de Proust, pour moi, la littérature est le plus grand des arts. Et à l'intérieur de la littérature, il y a tous les autres arts. Je sais que c'est une conception qui n'est pas partagée, mais dans Proust, il y a énormément de pages comme ça là-dessus. Et donc, en un sens, écrire des phrases, aujourd'hui, pour ne pas suffoquer dans l'auto-célébration de ses propres phrases, c'est créer des passerelles avec d'autres arts. Voilà, donc je rencontre il y a quelques mois un jeune artiste. Il lit Cercle. C'est quelqu'un qui fait des images, il propose des images. Je trouve ça très bien. C'est un travail, vous voyez, je pense qu'au cœur de ce travail, il y a l'idée de faire se confronter quelque chose qui, encore une fois, sans doute est impossible, parce que c'est faire parler des images et faire voir des phrases et échanger les rôles comme ça. C'est une tentative, je revendique le terme de tentative, et je suis sûr que Guillaume Emeunier dirait ce genre. Il y a comment ? Très bien pour.
Ouais. Bonjour. Bonsoir. Il y a une image que j'ai particulièrement appréciée dans la vidéo, c'est la matérialité de l'écriture. Je veux dire, pas écriture au sens de style, mais justement l'acte d'écrire, où l'on assiste aux déambulations du cahier, où l'on voit donc en gros plan la course du stylo sur la page. Tout cela nous fait comprendre ce que c'est que d'écrire, avec son rythme, sa ponctuation, les collages, les ajouts. Et est-ce qu'il y a pour vous un rituel de l'écriture qui impliquerait d'utiliser, par exemple, toujours le même papier, toujours le même instrument ?
Oh non, je m'en fous complètement. Mais moi, j'ai pendant longtemps, j'avais pas de table, enfin, pour écrire, j'avais pas de. Ça me gênait d'avoir un. Voilà, les rituels me gênent. Cette espèce de fétichisation de l'écriture me. J'ai toujours trouvé ça un peu lié. Enfin, quand j'entends des écrivains parler de ça, je trouve que c'est toujours un peu une facilité, mais ça regarde que moi. Enfin, c'est un petit côté comme ça, collectionneur, ranci. Enfin, ça me répugne un peu. Moi, j'ai toujours écrit en n'importe où, dans les cafés, en marchant. Enfin, comme le montre bien le film, c'est pour ça que je trouve ça effectivement pas mal. Voilà, c'est La tentative de faire des phrases, pour moi, elle est liée à la circulation du corps chaque jour. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, d'athlétique, enfin, au sens non sportif du terme. Et donc, j'ai pas de rituel, j'ai pas de fétiche. J'écris n'importe comment sur des petits cahiers, sur des bouts de papier. Et après, c'est vraiment un très très gros problème pour moi que de mettre ça en récit. Mais c'est aussi lié à ma conception, enfin, j'ai pas choisi, c'est comme ça, à ma conception du récit. Je n'arrive pas à écrire une histoire de A à Z, je suis pas du côté des conteurs, vous voyez. Je serais incapable de dérouler une histoire. Donc pour moi, ce sont des mosaïques, des épiphanies qui se composent et qui vont faire naître quelque chose comme du récit. Et il y a toujours du récit, finalement, même dans les épiphanies d'ordre poétique. Donc là, pendant les 5 années où j'ai écrit Cercle, bon, je me promenais, j'allais un peu partout en Europe. J'écrivais les choses comme ça me venait, avec des lectures, avec rien. Et alors après, comme j'en ai lu un petit bout qui parle de ça, après, quand il a fallu mettre ça en forme, ça a été terrible. Bon. Et bon, heureusement, il y a des ordinateurs pour faire ça, mais moi, j'écris tout à la main. Donc, évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de cahiers Clairefontaine, et c'est pas très pratique, mais c'est ça ou rien. Voilà.
Bien. Écoutez, merci d'être venu. Merci beaucoup, Yannick Hennel. Je veux dire au public que vous pourrez retrouver Yannick Hennel à la sortie de la petite salle. On a installé une table de livres pour ceux qui ont envie de feuilleter les livres et de poursuivre la conversation avec Yannick Hennel. La prochaine séance aura lieu le 18 février et notre invité sera François Chingue. À bientôt.
Merci.